Bonjour à tous, chers auditeurs. Moi, c'est William. Bienvenue dans ce 63e épisode de Subculture, une histoire de la musique actuelle. Je vais donc tout au long de cette série retracer l'histoire des genres musicaux populaires que l'on connaît aujourd'hui en accent sur les styles d'origine anglo-saxonne. Autant parler de ce que je connais. Bien sûr, ces genres de musique tirent leur base de sonorité du monde entier, j'en parlerai, mais je ferai peut-être une autre série sur l'histoire des musiques d'autres pays pour pouvoir me focaliser un peu plus sur celle-ci. En attendant, voyons d'où viennent le rock, le rap, la techno, la house. Comment sont-ils apparus? Pourquoi? Dans quel contexte? Et comment tous ces styles ont influé sur la scène musicale francophone? C'est ce que nous découvrirons dans cette émission. Je ne vais pas pouvoir parler de tout en détail, mais je sais que vous m'excuserez si je semble oublier certaines choses. Ceci est une synthèse se focalisant sur les genres et styles alternatifs, underground, ce que l'on appelle les sous-cultures, d'où le nom de l'émission. Bien sûr, j'aborderai un peu le mainstream, le commercial, mais ce qui m'intéresse le plus ici, ce sont les rebelles de la musique, qu'elles soient révolutionnaires au sens politique du terme, mais aussi purement musicales et techniques. La dernière fois, nous parlions d'Usketeu, ce groupe de hardcore américain qui s'est mélodisé au fil du temps, devenant le précurseur du grunge et du pop-punk qui arrivera dans les années 90. Mais en fait, l'histoire est plus complexe, bien sûr. Aujourd'hui, nous allons donc parler de ce qui a amené à l'émergence du pop-punk californien des années 90 avec Green Day, The Offspring ou Sum 41. Que le versant pop du punk n'est pas du tout né dans les années 90. Il est né presque en même temps que le punk lui-même. En gros, on résume souvent l'histoire à Buzzcocks, plus Descendants, plus Huskadoo, égale Green Day. Mais là encore, c'est en fait plus complexe. La première fois que la pop et le punk ont fusionné, on peut remonter dès les débuts des Ramones. Quand les Stooges et les MC5s arrivaient avec des guitares bien agressives, les Ramones s'inspiraient des productions pop de Phil Spector et écoutent ce que l'on appelle de la bubblegum music. Ils parlent de sujets frivoles, de relations avec les filles et de rébellions adolescentes. Et leur tube Blitzkrieg Pop, par exemple, c'est parce qu'ils veulent avoir aussi une chanson scandée comme Saturday Night de Bay City Rollers. Is she really going out with him?
Puis
Puis en 76, le punk arrive en Angleterre et le premier single à sortir est New Rose des Damned. On en a déjà parlé. Quand on ne peut pas nier l'héritage de certains actes pop du glam rock comme T-Rex ou Bowie sur tous les punks, les Damned avec New Rose se démarquent déjà des Pistols ou des Clash, ou même des Damned eux-mêmes par la suite, avec leurs paroles politiques et révoltées. Là, ça parle d'une fille, tout simplement. Et la phase B, c'était une reprise de Help des Beatles, une référence dans la pop. La pop était là, mais elle était moquée. Elle n'était pas à prendre au sérieux et ces groupes s'en servaient dans ce sens, jusqu'à ce qu'un groupe émerge de Manchester. Well, you tried it just for once, found it alright for kicks. But now you find out that it's a habit that sticks and you're an orgasm addict. You're an orgasm addict. Sneaking in the back door with dirty magazines. So your mother wants to know what all the stains on your jeans. And you're an orgasm addict. You're an orgasm addict. You're getting the heat, you're getting that salt, but you're still keeping beating your meat to pulp. And you're an orgasm addict. You're an orgasm addict. You're kicking Sonova, you're a no-chose effort. Live on a fucking yourself to death. Orgasm addict. You're an orgasm addict. Les Buzzcocks sont le premier groupe à vraiment capturer cette aura pop-punk. Ils parlent d'amour et de confusion sexuelle sur des mélodies beatlesques. Et avec leur single Orgasm Addict, ils abordent un des sujets prédominants ensuite dans le pop-punk. Toujours l'amour, mais l'amour de soi. On se souvient peut-être moins de Generation X que des Buzzcocks, mais ce groupe a été crucial dans l'évolution du pop-punk, surtout d'ailleurs pour avoir été l'un des premiers groupes perçus comme pas authentique, faux et donc moindre. Tout comme les groupes de pop-punk actuels dénigrés car trop parfaits, trop beaux, Generation X l'était pour leur look et comment leur chanteur Billy Idol traînait par hasard avec les élites du punk londonien. On les traitait de punk plast. Dans ce milieu, il fallait prouver sa crédibilité à tel point que le bassiste des Sex Pistols, Glenn McClurg, s'était fait virer pour écouter du ABBA ou les Beatles. Generation X, eux, le revendiquaient. Billy Idol deviendra aussi, pour le meilleur et pour le pire, la figure commerciale du punk, ses clips passant de long sur MTV. En Irlande du Nord, les Undertones ont continué le travail des Buzzcocks, mais avec l'accent irlandais et avec la percussion pop par excellence, le clap. Celui des mains, bien sûr, comme ça, à la place ou avec la caisse claire. Teenage Kicks, c'est en gros une chanson de T-Rex au tempo punk qui parle du désir du chanteur pour une fille de son quartier. Quand d'autres groupes nord-irlandais allaient à fond dans la politique comme Stiff Little Fingers, parlant de la situation du pays avec la guerre et les menaces, les Undertones préféraient parler de la colère adolescente. Quoique Stiff Little Fingers en parle également dans Suspect Device, qui certes rappelle le climat dangereux et anxiogène avec les attentats, mais parle surtout du fait que dans les années 70, à Belfast, il n'y a rien à faire quand on est jeune. Darling, you got to let me know. Should I stay or should I go?
if you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know, should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine and next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know, should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble.
Dans le reste du Royaume-Uni, on avait plein de groupes qui, à la fin des années 70, début 80, sonnaient très pop. Des jams avec leurs hymnes inspirés des Who pour les classes travailleuses à l'apathie sarcastique des adverts sur des titres comme Bold Teenagers. Les punks originels, comme les Clash, s'y mettaient aussi, remplissant des stades en 82 et sortant des titres beaucoup plus grand public comme Should I Stay or Should I Go. Tout le punk des débuts des années 80 était voué à devenir de la New Wave, plus commercial et radio-friendly comme The Police ou Elvis Costello. La New Wave américaine avec Blondie, The Go-Go's ou The Cars influenceront aussi le punk de la fin des années 80, parce que c'est ce que cette relève a écouté en grandissant, bien souvent niant quand même l'avoir fait. Une autre grosse influence aussi sera The Decays, qui en 78 sortent leur premier album, The Incredible Shrinking Decays, et le groupe se décrit lui-même comme du punk facile à écouter, leurs textes parlant de pop culture et de trucs absurdes, en reprenant les thèmes de dessins animés pour enfants. Ils inspireront des groupes comme The Vandals ou les Toy Dolls au milieu des années 80.
To Bombay, a traveling circus came. They brought an intelligent elephant, and Nelly was her name. One dark night, she slipped her iron chain. And off she ran to Hindustan and was never seen again.
Nelly the elephant packed the trunk and said goodbye to the circus. Off she rode a chumpity chump, 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 chump. Now Nelly the elephant packed the trunk and tumbled up in the jungle. Off she rode a chumpity chump, chump, chump.
Night by night, she danced to the circus band. When Nelly was leading the big parade, she looked so proud and grand. No more tricks for Nelly to perform. They taught her how to take a bow, and she took the crowd by storm.
She ran with a chompity chomp, 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 chomp. Now Nelly the elephant packed the chomp and jumble up the jungle. Off she rode a jumbly jump, jump, jump. The head of the herd is calling far, far away. The neck will hang with silver like the heart of Mandalay. Et en parallèle, on l'a vu, il y avait le hardcore américain. Et c'est pas parce que c'était plus rapide et violent que ça laissait pas place à la mélodie pop. Et en parallèle, on l'a vu, il y avait le hardcore américain. Et c'est pas parce que c'était plus rapide et violent que ça laissait pas place à la mélodie pop. Orange County à Husky Du en passant par Adolescence. Tous ces groupes ont contribué à imposer le fait que le punk peut être mélodique et parler de sujets adolescents aussi. Avec des groupes comme Social Distortion ou The Descendants également, bien qu'Husky Du ou The Replacements ne soient pas de là-bas, cette période a aussi le fait que le pop-punk sera un genre californien. Et un album des Descendants marquera la suite à jamais, c'est Milo Goes to College. Avec des chansons comme Hope, ce groupe a influencé clairement la sonorité de ce qui allait arriver dans les années 90. Fat Mike de NoFX dira même que c'est son album préféré, à la frontière exacte entre la pop et le hardcore. Et à cette période-là, il y a aussi Bad Religion, qui s'est complètement grillé dans la scène en 83 en sortant leur album Into the Unknown, passant du hardcore à un truc plein de synthé qui ressemble plus à de la prog, tout ce que les punks détestent. C'est la fin pour eux. Mais en 86, ils se reforment, reviennent à une sonorité plus proche de leur début et travaillent pour sortir en 88 peut-être l'album le plus influent de la pop-punk, Suffer. The gift of hope renewed, eternity for you. The masses of humanity have always had to suffer. C'est exactement ce dont avait besoin le punk californien. Bien que les thèmes soient bien punk et politiques, les sonorités sont influencées par leurs prédécesseurs du pop-punk comme Costello, The Jams ou même les Ramones. Suffer a ravivé la scène qui en 88 était complètement morte, plus nulle part où jouer, et que des groupes plus thrash metal que punk. Sur sa tournée en Europe en 88, Fat Mike pensait arrêter NoFX pour devenir Roddy sur la tournée d'Operation Ivy. Mais en entendant ça, il revient sur sa décision. Et heureusement pour lui, vu la suite. Puis en parlant de Bad Religion, son premier album était sorti en 81 sur un label qui deviendra très important pour le genre, Epitaph, nommé d'après une chanson de Kim Crimson. Le label est presque en faillite au milieu des années 80, à cause des problèmes de coke de son PDG, n'ayant sorti que les albums pré-Suffer de Bad Religion ou le EP Peace Through Vandalism des Vandals. Et quand Bad Religion sort Suffer, le label est sauvé. Ça se vend à 4 millions de copies sur sa sortie initiale, ce qui est colossal pour un tout petit label inconnu. L'album suivant, No Control, en 89, se vendra à 12 millions de copies, ce qui donnera à Gerritz, le PDG, les moyens de signer et sortir les albums d'autres groupes comme NoFX, L7, Pennywise et plus tard The Offspring ou Rancid. Mais Epitaph, ce n'est pas le seul label indep qui aura de l'influence. Il y avait aussi par exemple Lookout Records, fondé par Larry Livermore en 87, aidé par David Hayes. Livermore faisait partie de l'ancienne génération de punk. Son label est d'ailleurs nommé d'après son groupe, The Lookouts. se sont formés en 85 avec deux gamins, alors que lui en a 30. Kane Kong, le bassiste de 14 ans, et Frank Edwin Wright III, 12 ans, batteur. Et oui, c'est vraiment son nom, il y a vraiment 3 en chiffres romains. Ils sont fous, c'est ricain. Mais bref, je digresse, le premier album significatif sorti sur Lookout, c'était l'EP Hectic de Operation Ivy en 87. Operation Ivy marquera le genre. Quand tout le monde se contente d'une version hardcore de la pop, eux ont ajouté ce skank de guitare dans leur musique rappelant les groupes de ska revival british du début des années 80. Vous vous souvenez, le two-tone avec les Specials ou Madness. Là, ils venaient de créer ce qu'on appelle le ska-punk. Ils seront à l'impulsion de ce nouveau style, influençant tous les groupes de ska-punk après, mais on parlera d'eux dans les années 90. Operation Ivy se séparera après leur seul album en 89, mais le guitariste Tim Armstrong et le bassiste Matt Freeman formeront le groupe Rancid en 91. Mais en 88, c'est aussi l'arrivée de la pop-punk. Enfin, le retour après Billy Idol sur MTV. One Saturday I took a walk to Zipperhead. I met a girl there and she almost knocked me dead. Oh, brother, please look at me. What do you see? Let's travel around the world, just you and me, punk rock girl. I tapped her on the shoulder and said, do you have a bell? She looked at me and smiled and said she did not know. Punk rock girl, give me a chance. Let's go slam dance to a dress like Minnie Pearl, just you and me, punk rock girl. We went to the Philly Pizza Company and ordered some hot tea. The waitress said, well, no, we only have it iced. So we jumped up on the table and shouted anarchy. And someone played a Beach Boys song on the jukebox. It was California Dreaming. So we started screaming on such a winter's day. She took me to her parents for a Sunday meal. Her father took one look at me and he began to squeal. Punk rock girl, it makes no sense. Your dad is the vice president, rich as the Duke of Earl. Yeah, you're for me, punk rock girl. To a shopping mall and laughed at all the shoppers, and security guards trailed us to a record shop. We asked for Mojo Nixon, they said he don't work here. We said if you don't got Mojo Nixon, then your store could use some fixing.
Punk Rock Girl du groupe de Philadelphia, The Dead Milkmen, est peut-être le premier clip de pop punk américain qui tourne souvent sur MTV. C'est en gros l'histoire d'une fille punk, vous l'aurez compris, qui finit par voler une voiture. Mais c'est une fille de Bourges qui fait ça juste pour se rebeller contre ses parents. Et si eux arrivent à mettre le punk rock sur le petit écran, d'autres peuvent aussi le faire. Mais ça, on le verra bien plus tard.
Subculture, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve tous les lundis 14h, les samedis 11h et le dimanche 21h sur Radio FM Plus 91MHz, bien sûr, en DAB Plus Canal 9C Montpellier Local, sur les applis Radio Line ou les radios associatives, ou encore sur radiofmplus.org via l'onglet Écouter le direct. Vous pouvez également retrouver tous les épisodes précédents en podcast, en écoute et téléchargement gratuit et à la demande, toujours sur radiofmplus.org. Quant à moi, je vous dis à la prochaine et punk, stay on our dead.